Quels parents sommes-nous? L'éducation positive en question? Une conférence France Inter déclinée en podcast en partenariat avec la MAE.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Ali Rebéi. Pour continuer cette série de podcasts autour de la parentalité, je vous propose un échange avec mes invités autour de cette question: quel type de parent êtes-vous? Bruno Humbeck, trois images permettent de bien se situer. L'image du parent hélicoptère, l'image du parent drone et l'image du parent curling, du nom de cette passionnante discipline sportive. Commençons avec le parent hélicoptère. Alors, le but du parent hélicoptère, c'est contrôler son enfant. Et ses phrases favorites, t'es où? T'es avec qui? Tu reviens quand? Et son espoir secret, ne lui faire exposer aucun risque et ne l'exposer à aucun danger.
Alors, juste pour répondre, je suis convaincu ici qu'on n'a que des hyper-parents. Hein. Donc, il faut bien se dire qu'il y a Rachmaninoff à 300 mètres et ils viennent écouter des gens parler de pédagogie. Donc, il faut vraiment être des hyper-parents. Et je le dis parce que il faut surtout éviter de penser que l'hyper-parentalité est une maladie.
Exactement.
C'est pas une maladie, c'est juste une tendance. Une tendance qui est liée au fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on a convoqué à naître nos enfants et que donc, par exemple, on va avoir cette tendance à manifester ce comportement de parents hélicoptères parce qu'on se doit dire, il faut que je le garde sous mes yeux. Il faut pas qu'il s'échappe. Et il faut savoir que la distance des enfants qui leur est autorisée d'accomplir sans être sous le regard des parents, elle a diminué très très fort ces années, au point de créer ces enfants qu'on appelle ces enfants d'intérieur. Nos enfants sont de plus en plus à l'intérieur, les adolescents aussi. Alors ils en arrivent effectivement à devoir répondre à une injonction un peu paradoxale: reste sous mes yeux et explore le monde. Résultat, ils sont sous les écrans. Et les parents, effectivement, à ce moment-là, l'hélicoptère, se tracassent parce qu'il est trop souvent sous les écrans.
Quels sont les signes qui montrent qu'on est peut-être un parent hélicoptère? Alors, ça dépend évidemment de l'âge de ses enfants. Évidemment, on ne sera pas le même type de parent hélicoptère.
T'es avec qui? Tu reviens quand? T'es où? Et dès que l'enfant n'est pas là, on est obligé de contrôler. On le voit d'ailleurs, là aussi, le commerce surfe dessus, hein, des petites puces pour vérifier où ils sont, etc. Le portable, hein, tu peux avoir un portable parce que c'est pas pour nous téléphoner, c'est pour qu'on puisse t'appeler et savoir toujours où tu es, quels que soient les mouvements que tu réalises. Alors, de nouveau, c'est pas un problème, sauf si ça crée de la pression sur le parent lui-même, qui se dit, mon Dieu, c'est terrible de devoir contrôler. D'autant que l'enfant va aller dans un univers virtuel, hein, sur les écrans, qui eux sont pas contrôlables ou difficilement contrôlables. Et c'est un problème aussi quand ça met de la pression sur l'enfant, c'est-à-dire que ça limite son capacité d'autonomie, tu restes près de papa, tu restes près de maman, et quand ça met de la tension sur la relation.
Alors attention, c'est pas une pathologie hein, d'être un parent hélicoptère, faut le redire, on peut être un parent hélicoptère heureux avec un enfant qui supporte plutôt bien cette pression.
Je dirais que si on n'est pas du tout hélicoptère, c'est un problème aussi, hein, c'est-à-dire le défaut de surveillance est un vrai problème aussi en éducation, ça veut dire que la tendance à surveiller, mais c'est la différence entre le fait de surveiller et la volonté de contrôler.
Et vous défendez d'ailleurs l'idée d'audace prudente, chère à Aristote.
C'est ça.
C'est un bel oxymore. Hein.
Mais c'est-à-dire que oui, mais les bateaux sont pas faits pour rester au port. On voudrait tous effectivement, et un bateau au port, il prend moins de risques, mais il faudra bien un jour partir dans la mer. Et c'est pour ça effectivement que l'image du curling, elle me plaît modérément.
On va y revenir.
On va y revenir.
Rebecca Shankland.
Oui, c'était juste pour revenir sur cette nuance, c'est-à-dire que le parent hélicoptère, le risque, c'est qu'il cherche à garder l'enfant toujours près de lui et même l'adolescent. Mais par contre, le fait de poser la question où tu vas et avec qui tu vas, ça, c'est de la supervision parentale et les recherches. Moi, je suis désolée, je m'appuie sur la recherche. Les recherches montrent que c'est un facteur de protection par rapport aux conduites à risque de l'adolescent, aux consommations de substances. Donc, il y a cette dimension qui est utile. Mais le risque, c'est d'être surprotecteur, c'est-à-dire d'empêcher l'enfant de faire ses expériences, de s'éloigner du milieu familial.
Sondage de l'Institut du Doigt Mouillé, est-ce qu'il y a des parents hélicoptères dans la salle? Levez la main, osez lever la main les parents hélicoptères présents ici à la maison de la radio, Studio 104. Il y en a pas mal là-bas, il y en a quand même pas mal ce soir et j'imagine derrière votre écran. Alors, deuxième type d'hyper-parents, et c'est pas pathologique, on le redit, c'est le parent drone. Alors, ces phrases fétiches, je veux le meilleur pour toi, la meilleure école, le meilleur jouet, le meilleur stage, le meilleur vêtement, le meilleur équipement, tout pourvu que ce soit le meilleur. Bruno Mec, je vois mal un parent vouloir le pire pour son enfant.
On est d'accord, et c'est pour ça que le parent hélicoptère, c'est un le parent drone, ça part en hélicoptère amélioré. C'est-à-dire que c'est normal de vouloir le meilleur pour son enfant.
Et c'est-à-dire qu'au moindre signal, il vole comme un drone au-devant de son enfant pour assouvir ses manques.
Le gros problème, c'est que, et c'est un problème dans lequel d'ailleurs la pédagogie de nouveau positive mal pensée est tombée, c'est l'idée de la joie continue, la satisfaction permanente, le contentement constant, alors que ce qu'on recherche pour nos enfants, c'est pas ça, c'est le bonheur, mais une forme de bonheur qui est en train d'ailleurs de changer très fort de paradigme. Je vais me permettre de faire un tout petit sondage dans la salle, si je peux l'emprunter. Je demandais à chacun de penser à son niveau de bonheur et à se situer entre 0 et 10. Tout le monde a son chiffre? Je voudrais juste demander qui a 7. Alors, ne bougez pas, vous avez le chiffre parfait. C'est ça le bonheur parfait. C'est ça qu'on cherche dans la vie. Ceux qui ont 9 ou 10, soit vous êtes amoureux, le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, hein, mais c'est pas grave, soit vous avez une satisfaction longtemps attendue qui est réalisée. Trop souvent, on s'est imaginé dans l'éducation qu'on devait mettre nos enfants dans la situation du 9 ou 10. Le parent drone, quand il se met la pression, c'est ça.
Et le risque, c'est l'épuisement parental.
C'est l'épuisement parental et l'épuisement de l'enfant. Être tout le temps content, c'est épuisant, parce qu'à chaque contentement, vous devez réclamer autre chose.
Y a-t-il des parents drones dans la salle? Nouveau sondage de l'Institut du Doigt Mouillé. Est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a une, là. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, parent hélicoptère, parent drone, et il y a le parent curling, ce sport qui me passionne, comme vous, Bruno Humbeck. On les appelle aussi les parents bulldozers. Le but du parent curling, c'est de déblayer tous les obstacles qui pourraient entraver la trajectoire de son enfant.
Juste pour bien situer le curling, ça passe à 3h du matin pour le moment sur Eurosport. Si vous avez des insomnies, vous regardez, vous allez voir, c'est épouvantable. Vous avez des gens qui lancent un palais, ça c'est une très belle métaphore de l'éducation. On lance, on lâche et le palais va vers quelque chose qui peut évoquer le bonheur. Ça, très bien. Sauf que vous avez des personnes qui balayent de manière frénétique en disant il faut qu'on contrôle le développement, le déroulement du palais. Alors, il ne faut pas trop le dire trop fort, mais ça ne sert à rien, ou à pas grand-chose, mais il donne plein d'énergie. Et c'est l'attitude qu'ont les parents, par exemple, hein, le symptôme typique du parent curling, c'est celui qui s'énerve en faisant les devoirs avec son enfant. Il fait de la contre-pédagogie, c'est très clair, il agit de manière contre-productive, puisqu'un enfant stressé ne peut pas apprendre, le parent qui crie stresse son enfant, mais c'est un parent qui dit « il faut que tu réussisses à l'école, pire que ça, il faut que tu aies des beaux points ». Moi, j'ai 3 photos dans mon bureau que je montre très souvent, parce que beaucoup de parents qui sont atteints d'hyperparentalité qui viennent en consultation. Je montre une première photo avec un groupe classe. Et puis, je montre la photo de ces enfants en primaire, en fondamentale, puis en collège, lycée, une troisième photo. Entre la première photo et la deuxième photo, c'est-à-dire primaire, collège, il y a une corrélation absolue. Si vos enfants ne travaillent pas bien en primaire, ça ne va pas s'arranger. Ça continuera au collège, en lycée. Mais j'ai une troisième photo. Le bonheur ultérieur et la réussite socio-professionnelle ultérieure, absolument aucune corrélation. Ce sont des recherches qui montrent ça. Vous avez des enfants qui se sont vautrés alors qu'ils avaient de très beaux résultats à l'école et d'autres qui ont très bien réussi avec des résultats catastrophiques. Et puis il y a une quatrième photo, heureusement une photo magique, qui montre les enfants qui étaient des lecteurs spontanés, qui lisaient spontanément des livres et qui transformaient leur jeu en jeu éducatif. Là, il y a une corrélation absolue. Et donc, les devoirs, s'énerver pour prétendre, à un moment donné, assurer l'avenir de l'enfant, mais casser en réalité son envie d'apprendre, hein, parce que c'est ça qui est très dommageable dans des devoirs qui deviennent des moments de torture pour l'un comme pour l'autre. Et donc, c'est terriblement nocif. Et ça, ce sont des comportements problématiques du parent curling.
Rebecca Chanclon.
Non, tout à fait d'accord.
Très bien. Dans la salle, est-ce qu'il y a des parents curling? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se reconnaissent dans cette description? Oh, il y en a beaucoup moins, là, des parents curling. Ah, il y en a là, où, là-bas? Il y en a quelques-uns. Bruno Humbeck, la parentalité positive, pour vous, a engendré 3 types de parents emblématiques. Le parent zen, par exemple, le parent zen, qui est imperturbable quand il est face à un enfant qui est un peu difficile, il est calme, très calme. Il dit « je suis très fâché » sur un ton zen. Et pour vous, non mais c'est contre-productif de faire ça, de dire « je suis très fâché » sur un ton zen, voilà.
Je suis très conscient que je prends des images. Une image, c'est toujours effectivement quelque chose qui permet de comprendre de façon fulgurante, et ce sont les excès de la pédagogie positive mal comprise. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Mais imaginez un parent qui vient de peindre son salon. Magnifique, il a bien travaillé. Il laisse traîner les pots de peinture et il monte prendre sa douche. Et son petit garçon, sa petite fille, vient et met les mains dans le pot de peinture et puis fait un facsimilé de Lascaux sur le mur.
Papa... Moi, il ne faut pas qu'on me le fasse.
J'imagine bien. Papa redescend et puis il a lu un mauvais livre de pédagogie positive et il explique effectivement... Je comprends que tu aies une pulsion artistique. Et je ne voudrais surtout pas la contrarier. Mais tu dois quand même savoir que papa préférerait qu'une la prochaine fois tu le sollicites. L'enfant ne va rien comprendre. Parce qu'il doit voir qu'une colère, ben, ça se manifeste.
Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là?
Eh bien, on est en colère et on montre cette colère. Et l'enfant va apprendre effectivement qu'il ne peut pas tout se permettre et que pour un certain nombre de comportements, il doit demander d'autorisation. Mais si vous mutilez l'émotion de son expression, eh bien, vous empêchez l'enfant de la décrypter.
À côté du parent zen, le parent hyper communicant.
On les a vus pendant la pandémie, hein, lorsqu'on téléphonait à des collègues et qu'il était impossible d'avoir une conversation téléphonique aboutie parce que le petit réclamait l'attention en permanence. C'est très contre-productif pour l'enfant aussi, hein, parce que l'attention, c'est pas quelque chose de continu. C'est quelque chose qu'on accorde de temps en temps aux autres. Et on entendait très peu, trop peu de parents utiliser ce mot magique en éducation. Pas maintenant. Je suis occupé à quelque chose de sérieux. C'est sérieux de t'écouter. Et donc, je t'écouterai au moment où j'aurai le temps de le faire. Oui. C'est ça que la pédagogie positive intelligente, c'est la vôtre. Hein.
Là où tu as raison dans la surcommunication, c'est le problème de l'horizontalité parents-enfants. Quoi. C'est à un moment donné, on donne autant de paroles, autant d'importance. C'est la démocratie familiale. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment donné, on peut dire à un enfant, je suis désolé, ce que tu dis, excuse-moi, mais on est en train de parler avec maman. Je vois, par exemple, le renforcement positif sur les colliers de nouilles. Moi, je suis désolé, les colliers de nouilles, on va pas dire que c'est horrible à la fête des mères, on va pas non plus s'extasier, c'est pas du... Mais j'ai vu des standing ovations dans des guignols d'enfants et on en redemandait au bout d'une demi-heure à l'bas. On n'a pas dit, il faut dire que c'est pourri, mais on peut quand même dire... Sympa, on arrête là 10 minutes. Moi, je fais beaucoup de guignols avec mes petits-enfants, c'est ma passion de guignol. Donc, je décide, avec l'aîné qui a 11 ans, de faire un peu le scénario, mais je décide surtout du temps. Voilà. 10 minutes. Parce que sinon, c'est du délire. À un moment donné, c'est... Non, t'arrêtes, parce que ça y est, guignol tape sur tout le monde, ça y est, c'est bon.
Dernier parent, le parent super tolérant.
Alors ça, celui-là, on l'a déjà évoqué en filigrane, hein, et évidemment que c'est l'illusion, de nouveau, du parent qui ne mettrait jamais de limites, y compris les limites temporelles. Pas maintenant, pas tout le temps, pas aussi longtemps. Ce sont des phrases qu'en éducation, on ne doit pas hésiter à dire à son enfant. Et beaucoup de parents ayant mal lu, hein, de nouveau, hein, c'est pas du tout... Ou alors ayant bien lu, mais une mauvaise littérature. Mais il y a eu, et ça je pense que personne en pédagogie positive ne peut nier, il y a eu aussi une très mauvaise littérature. Il y en a eu en psychanalyse, il y en a eu dans toutes les modèles théoriques, mais cette mauvaise littérature, eh bien, comme toujours, quand un être humain comprend mal les choses, il en fait des images. C'est pour ça que je me suis permis de faire des images. Parce qu'une image, c'est une compréhension fulgurante, hein, c'est la métaphore. On sait qu'effectivement, c'est jamais ça qui a été demandé par la pédagogie positive. C'est pas dire, il faut tout permettre. Ça, on l'a déjà dit plus d'une fois. Et le parent hyper tolérant, qui s'imagine que dès qu'il met en place une limite, il crée une frustration et donc il met son enfant en danger, évidemment que c'est tout à fait contre-productif.
Et puis les parents, quelquefois, le même problème avec la tolérance aux frustrations. L'éducation, oui, c'est aussi frustrant.
J'imagine que vous avez des questions. Il y a un micro qui va circuler dans le studio 104. Levez la main. Ah, il y a une question juste là, madame. Nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé du coup d'éducation positive au sein des familles, mais les enfants sont aussi des élèves et ils passent énormément de temps à l'école. Et donc du coup, quel est le rôle et comment peut s'adapter l'éducation positive à l'école?
C'est le problème de la pédagogie trop positive. L'autre fois, dans une conférence, quelqu'un me demande « Qu'est-ce que vous pensez de la pédagogie ludique ?» Alors, je demande une explication. En fait, c'est rendre sympathique un thème déplaisant. En gros, on va rendre plaisant l'apprentissage des verbes irréguliers en anglais, de déclinaisons en allemand, quoi. Non, dans le temps, c'était pareil. L'instit, blouse grise, pater familias, c'était tout le temps dans le déplaisant. Il était nécessaire qu'il y ait des pédagogies qui disent c'est pas mal quand même que l'enfant participe, soit créatif, soit respecté. Mais il faudra aussi mettre en amont de certains cours des apprentissages incontournables, pas faciles. Comme on fait du solfège pour la musique, comme on s'exerce en sport. Et souvent, la pédagogie positive, ça a été une espèce de nivellement. Et en plus, les instituteurs, les enseignants, pas tous, mais certains se sont mis à l'horizontale aussi. Le tutoiement, très tôt, dans les petites classes, l'absence de notation. On ne note plus pour pas avoir un pouvoir hiérarchique, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut pas prendre ce qui était bon avant? Vous savez, je suis un peu comme le philosophe michéen, moi, le complexe d'Orphée, ça m'agace. Est-ce qu'on peut prendre ce qui était bon avant? Et puis reprendre ce qui est bon dans la pédagogie positive. Mais c'est toujours pareil, c'est ce que disait Bruno, on est toujours dans un mouvement de balancier dans notre culture, quoi. C'est ou le prof d'allemand sévère, facho, le cliché, ou alors l'espagnol, la gros bamba. Cliché.
Là aussi, on se retrouve dans une potentielle caricature, c'est-à-dire que l'éducation positive à l'école, donc on va s'appuyer précisément sur le modèle dont je parlais tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de le développer, donc qui est basé sur la théorie de l'autodétermination de Sierra Yan, où on va chercher à répondre dans le contexte des interactions pédagogiques, donc dans les séquences pédagogiques, à ces trois besoins psychologiques fondamentaux, donc le besoin d'autonomie, de sentiment de compétence, c'est-à-dire le fait de se sentir capable de réaliser les tâches qu'on nous demande, et le sentiment de proximité relationnelle, et ça ne veut pas dire qu'on doit forcément tutoyer ou se mettre au même niveau, mais considérer l'élève comme une personne et pas seulement comme un cartable qui sort des cahiers. Donc, c'est des choses qu'on va travailler avec les enseignants, qu'on travaille depuis longtemps avec l'éducation nationale.
Et l'apprentissage du difficile.
Et qui a, tout à fait, puisque, en fait, pour développer le sentiment de compétence, on va justement travailler sur des consignes claires, comment aider l'enfant à identifier qu'il a bien réalisé chaque étape qui était demandée. Donc, c'est pas on va juste s'amuser à l'école, c'est en fait on va développer des interactions qui vont aider l'enfant à se développer au mieux, donc à pouvoir sentir qu'il est compétent pour faire l'exercice parce qu'on aura donné des consignes suffisamment claires.
Oui. Et moi je voudrais ajouter que quand on développe chez les enseignants leurs compétences émotionnelles et sociales, eh bien les enseignants vont mieux, ils se sentent plus compétents, ils sont heureux d'enseigner et ils n'ont plus de burn-out. Et quand ils savent transmettre ces compétences émotionnelles et sociales aux enfants, eh bien, les enfants se développent au maximum de leurs possibilités dans tous les domaines personnels, ils vont bien, social, il n'y a plus de harcèlement, et intellectuel. Et même s'ils viennent de milieux très défavorisés. Donc, développer les compétences sociales et émotionnelles chez les enseignants et ensuite qu'ils les transmettent aux enfants, c'est fondamental.
Alors, je pense effectivement, t'es tout à fait d'accord, mais d'accord aussi avec ce que Didier disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut considérer la pédagogie positive comme un moment dans l'histoire de la pédagogie. Elle ne doit pas chasser le reste. Les enfants ont longtemps été considérés comme des vases à remplir.
Ça, c'est la pédagogie. Là, je ne parle pas de psychologie positive, je parle du développement des compétences sociales et émotionnelles.
Mais moi aussi, hein, et donc oui. On est dans la pédagogie, l'enfant a longtemps été un vase à remplir, puis c'est devenu un feu allumé sous l'effet des pédagogies actives, puis c'est devenu une lumière à éclairer. Et on est maintenant effectivement dans l'idée, il faut aussi qu'il y participe parce qu'on va éveiller ses émotions. Et là, la pédagogie positive a apporté quelque chose, mais ça ne doit pas dénier le reste. Il y a encore des moments de transmission. Et j'invite tout le monde à écouter l'émission, d'ailleurs, qu'on a tournée, c'était mardi, je pense, mercredi, avec Ali, où j'ai une nouvelle notion, la notion de la nécessité que l'enseignant soit un phare. Parce que dans l'obscurantisme par lequel on est menacé, c'est important de donner des outils. Et donc, il faut prendre les leçons de la pédagogie positive, mais savoir aussi que pour les enseignants, il y a aussi d'autres enjeux.
Merci pour votre écoute. Dans le quatrième et dernier épisode de cette série, nous aborderons la boîte à outils pour mettre en pratique cette éducation positive.